L'évangile de Marc, chapitre 6, les versets... Évangile de Marc, chapitre 6, les versets 7 à 13. Marc, chapitre 6, versets 7 à 13, au nom de Jésus. Ensuite, Jésus alla enseigner dans tous les villages des environs. Il appela ses 12 disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna le pouvoir de commander aux esprits mauvais et leur donna ceci, ordonna ceci. Ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais n'emportez pas deux chemises. Il leur dit encore, quand vous arriverez dans une ville, restez dans la maison où l'on vous invitera jusqu'à ce que vous quittiez cet endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Les disciples s'en allèrent donc pour prêcher aux hommes qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient beaucoup de malades en versant de l'huile sur eux. Amen. Je pense que la plupart d'entre nous ici, nous avons déjà entendu ou lu ce texte ici et là. Et je pense que c'est un texte qu'on pourrait classer comme assez classique dans les évangiles. Et pour ma part, je l'ai prêché plusieurs fois, mais ce qui est merveilleux, les textes ne nous cesseront jamais de nous surprendre. Il suffit de bien écouter ce qu'il veut nous dire. Je ne dis pas il suffit de bien lire, mais de bien écouter. Parce que pour le prédicateur, le texte nous parle à nous d'abord et doit nous travailler, nous traverser, nous déstabiliser. Et ensuite, c'est après qu'on le partage autour de nous. Et alors, pour la première fois, je l'avoue, je me suis rendu compte que Jésus, qui est considéré comme le rabbi, envoie ses disciples ici. On peut dire qu'il envoie ses disciples en stage. Ils ne vont pas encore en mission, mais en stage. Le mot stage n'est pas utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'était pas encore le grand départ à la mission. Le grand départ, c'est plus tard, avant que Jésus monte au ciel. C'est là qu'il a dit, allez, faites des disciples. Ici, c'est un stage. C'est comme quelqu'un qui fait des travaux pratiques, qui suivent des cours à l'UNIF ou aux autres écoles, et maintenant il faut des travaux pratiques. Il était un bon professeur, donc il faut faire des essais. Pourquoi je dis cela? Pour deux raisons. La première, en lisant bien le texte, les consignes que Jésus avait données nous montrent cela, qu'ils ne vont pas aller loin, ni rester longtemps, mais juste pour quelques jours. Vu qu'il avait prescrit de ne rien apporter, vous avez remarqué, n'apportez pas de pain, ni de sac, ni de pièces de monnaie, pas de tunique de rechange. En réfléchissant, je pense que Jésus n'est pas un fou pour imposer à ses disciples une mauvaise hygiène de vie, ne pas emmener des chemises de rechange dans un pays où il fait très chaud. Et de prendre d'énormes risques pour les siens, je ne pense pas. La deuxième raison, lorsque le vrai moment de la mission était arrivé, la consigne donnée par le Christ était tout à fait l'opposé d'ici. Et je vous invite à regarder vos Bibles, Luc chapitre 22, versets 35 à 36. Luc chapitre 22, 35 à 36. C'est-à-dire qu'au moment du grand, le grand jour J, où il envoie vraiment ses disciples parce qu'il va partir, voilà ce que Jésus avait dit comme consigne. Il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, c'est-à-dire là, dans Marc chapitre 6, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit ? Ils répondirent, rien. Il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac, et que celui qui n'en a pas d'épée vende son vêtement pour en acheter une. Donc, la formation est terminée, le stage est fait, maintenant les choses sérieuses ont commencé, préparez-vous, apportez tout ce que vous en aurez besoin pour la mission. Voilà un peu le schéma. Jésus prépare et exerce ses disciples à aller en mission. Il n'est pas comme tous les autres rabbins qui voulaient avoir des serviteurs autour de lui qui s'occuperaient de lui. C'était le but de certains rabbins. Les rabbins ont leur petite communauté. Ils aiment bien que ses disciples viennent pour les chouchouter, pour les servir, un peu comme un gourou. Jésus n'est pas un gourou. Jésus ne crée pas une communauté autour de son nom. Jésus envoie ses disciples. Et ce dont Jésus a besoin, ce sont des disciples qui sont prêts à aller en mission. Comme disait mon prof, Dieu n'a pas besoin d'avocat. Quelqu'un pour le protéger, il est assez grand, il est Dieu. Mais Dieu a besoin de témoins pour aller dans le monde. Le texte fait un jeu de mots intéressant dans l'usage successif des deux verbes dans une même phrase. Regardez au verset 7 où il dit ceci. Il appela ses 12 disciples et se mit à les envoyer. Il appela et ensuite il les envoie. C'est pas seulement il les appela pour être autour de lui et content d'être bien entouré. Non, il les appelle pour qu'ils puissent les envoyer à nouveau. Donc ici, le verbe « appeler, envoyer ». Et si Jésus avait choisi et appelé les 12, ce n'était pas pour son propre compte. Il les appelle dans le but de les envoyer. Si nous prenons le premier verbe « appeler »,« appeler », cela fait penser à quoi ? Cela fait penser tout de suite à la définition du mot « église » en grec « ecclesia ».« Ecclesia » veut dire « hors de »,« appelé »,« ek »,« or »,« kaleo », »,« appelé ». Et donc une église, ce sont tous ceux qui ont été appelés hors du monde. Tu as été appelé hors du monde pour se rassembler autour de la parole du bon berger. Et une fois que tu as entendu cette parole, le Seigneur te renvoie dans le monde. Dieu ne nous enlève pas du monde, il nous appelle du monde et il nous forme, ensuite nous renvoie dans le monde. Voilà être disciple. Disciple, ce n'est pas un club. Nous ne formons pas un club autour de Jésus, nous ne sommes pas des fans de Jésus, non. Jésus n'est pas une star. Que nous soyons là, adulés, oh Jésus, que tu es beau, que tu es bien. Et tellement il y a des chrétiens comme ça qui sont perdus. Ils aiment bien louer Dieu, mais pour aller en mission, non, pas moi, mais peut-être mon frère ou ma sœur. Dieu n'a pas besoin d'admirateurs, chers amis. Dieu a besoin de disciples. Si tu te dis disciple de Jésus-Christ, tu dois te mettre en route. Pour se rassembler autour de sa parole. Jésus n'a pas créé une ASBL pour avoir plusieurs membres, pour cotiser. Non. Et une fois que nous avons été rassemblés autour de la parole, la deuxième partie qui fait l'Église de Jésus-Christ, c'est d'être envoyé. Donc si on résume un baptisé ou une baptisée, c'est un envoyé de Dieu. Alors je vous pose la question. Levez la main, qui sont baptisés ici aujourd'hui? Qui parmi vous sont baptisés? Ah, vous êtes tous des envoyés. Pas seulement le pasteur, ni le consistoire, ni les prédicateurs laïcs, ni les diacres à charge. Nous sommes tous des missionnaires potentiels. Et imaginez si vous faites vraiment votre boulot. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette ville? Réfléchissez là-dessus. Nous avons été appelés à sortir du monde, non pas pour se mettre en isolement, comme quoi nous sommes des chrétiens entre nous, comme les Amish, entre eux, il ne faut pas se mélanger avec le monde. Non, ce n'est pas ça. Il nous enlève du monde pour qu'une fois transformés, édifiés, nous devions retourner dans le monde. Voilà notre Dieu. Dieu n'a pas peur de se frotter avec le monde. Au contraire, il nous envoie vers le monde. Et je pense que parmi tous les textes bibliques, la référence qui résumerait bien ces propos-là est celui de Pierre. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9, où il est dit « Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. » Voilà, il nous a appelés, qu'il a fait sien. Et ensuite, il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Une fois que tu es conscient que tu as été appelé de la mort vers la vie, tu as une obligation d'aller vers tes frères et tes sœurs qui sont encore dans les ténèbres. Si tu as une bougie allumée, tu ne vas pas l'emmener dans une pièce où il y a déjà de la lumière. Tu vas l'emmener là où il fait noir. Et ce qui veut dire une bonne église, c'est quoi une bonne église? Une bonne église est celle qui arriverait à remplir ses critères. Elle doit d'abord arriver à appeler les gens à se rassembler autour de la parole, comme on le fait maintenant, pour être bien nourri, bien édifié, bien formé. Et c'est pas fini. Ensuite, partir en mission dans le monde. Et cette deuxième partie-là, beaucoup d'églises ne le font pas. Ils ont des membres, ils ont plusieurs membres, et ils sont contents pour cela. Ah oui, nous sommes 1000, nous sommes 100, nous sommes 200 au culte. Mais ce n'est que la partie de la mission. Il y a une deuxième partie, la plus intéressante même. Va dans le monde. Et là, ça coince. Il se peut que l'Église a beaucoup d'activités, qui n'est pas mal en soi. Il arrive à rassembler des centaines, voire des milliers de membres. Mais si elle n'est pas missionnaire, cette Église, dans le sens où elle a des hommes et des femmes capables d'aller en mission dans la société où ils sont, alors cette Église deviendrait comme la mer morte. Vous savez, la mer morte, elle ne fait que recevoir, mais n'a pas de sortie. Et la particularité de la mer morte, il n'y a aucune vie dedans à cause de son taux de salinité. Aucune vie. Pourtant, à l'apparence, tu dis, mais oh, c'est beau, c'est magnifique. On flotte même dessus. Mais il n'y a pas de vie. Et d'après les chercheurs, ils disent même que cette mer morte ne cesse de baisser à cause de l'évaporation. Elle baisse, elle baisse. Mais on ne le voit pas à l'œil nu. Ce qui signifie un jour, cette mer, si belle soit-elle, disparaîtra. Après, on va dire, ah, l'époque, ah, avant. Oui, mais ça, c'était avant. J'ai repris cette illustration pour nous faire comprendre que pour la survie d'une église et qu'elle puisse accomplir vraiment sa mission, elle doit appeler et envoyer. Et dans cet envoi, nous pouvons nous en déduire en analysant les consignes données par Jésus. Je les cite ici. Envoyez deux par deux. De ne rien prendre pour la route, juste un bâton. Pas de pain, de sac, et ni de pièces de monnaie. Ne pas apporter de tunique et de rechange. Et nous avons oublié un détail assez énorme. Et avoir l'autorité sur les esprits mauvais. Que remarquons-nous avec ces consignes? Nous pouvons voir à travers ces consignes de Jésus que ce qui nous attend sur la route de la mission, chers amis, ne sera pas une tâche facile. Jésus ne nous promet pas un goudron nylon. Tu tombes, tu peux te casser la gueule, mais tu dois te relever. Ils devront savoir travailler ensemble. Pourquoi deux par deux? C'est pas facile de travailler ensemble entre frères et sœurs en Christ. Même si on dit, oui, la fraternité, on sommes tous des chrétiens. J'en connais pas mal d'expériences. C'est pas facile l'entente fraternelle, mais Jésus nous oblige, tu dois travailler deux par deux. Parce que ça t'apprend à être humble, tu n'es pas le seul à faire cette tâche. Et pourquoi aussi apporter un bâton? La marche sera dure. Tu auras besoin d'un appui. Pourquoi il dit apporter de la nourriture? Mais il y aura de manque de besoins matériels, ça pourrait arriver. Comme Élie, le grand Élie, il n'avait pas un stockage ou un congélateur où il y avait pas mal de choses à manger. Il attendait le corbeau à midi pour manger. Vous imaginez un peu cette image? Le grand serviteur qui attend le corbeau. Ça fait donner des leçons d'humilité. Et le plus dur, se préparer à affronter les forces du mal qui pourront te tomber dessus. Voilà ce qui nous attend. C'est un peu bizarre. Si on était dans une autre école de formation, les profs nous diront, mais ça va aller, t'inquiète pas. Ça fait déjà des années que j'ai fait ce boulot, ça va aller. Mais ils savent bien que ça ne va pas aller. Mais pour ne pas te décourager, quoi. Allez, vas-y, ça va aller. Mais le Christ, il s'est dit, voilà ce qui t'attend. Il ne le cache pas. Il te prépare même, c'est pour ça qu'il les envoie en stage, pour qu'ils puissent se préparer de toutes ces adversités. Toutefois, ce qu'il faut retenir, quelles que soient les difficultés qu'ils vont rencontrer, une chose est sûre, c'est Jésus qui t'envoie. Ça, c'est une garantie. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je ne sais pas si je vais tomber par terre. Je ne sais pas si j'aurai faim. Je ne sais pas si je serai malade. Mais je sais qu'une seule chose, c'est Jésus qui m'envoie. Et ce n'est pas un fou s'il m'envoie. Amen.